passait là-bas et lui prenait les comptes papier. Donc, je suis allé à Kaskadec le 13 juillet 1942. Et là, jusqu'à 44, moi, au moment du débarquement, là, on voit la femme d'un des chefs mécaniciens, puisque le père Bolloré avait fait venir deux mécanos là, de la boîte Chambon qui fournissait les enchevêtreuses et puis toutes les machines, les imprimeuses. Et donc, il fallait quand même des gars qui connaissaient, parce que ces machines, c'était vraiment très fragile. Il y a toujours un mécano pratiquement autour. Donc, la femme d'un d'eux, la Chouée, elle débarque à l'atelier des cahiers le matin, là, annonçant le débarquement en Normandie. Alors, tout ça, c'était un soulagement, évidemment. Et puis, à un moment donné, on se demandait un peu qu'est-ce que ça allait devenir. Si bien que, ici, à Audat, il y avait la fille Castric, là, qui était donc une nièce au père Garin, là, qui était embauchée comme sténodactylo, en même temps que moi, à peu près. Là. Et on n'était qu'à deux, là. Mais à Kaskadec, il y avait toute une flopée qui avait été embauchée. Et suite à un incendie qui avait eu lieu en 1943, et comme je le disais tout à l'heure, là, les ballots de chiffon, on n'arrivait pas à les presser dans les bouts. Et donc, toute la réserve qui était ici partait à Kaskadec, puisque ils continuaient à marcher. Là. Ils avaient cette chance-là d'avoir été reliés au secteur EDF avant-guerre. Donc, comme on avait du stock ici, tout ça partait à Kaskadec. Et ce transport a été fait par camion. Le déroute, c'était le transporteur qui faisait les navettes entre la gare de Sker et l'usine de Kaskadec et vice-versa. Et c'était une boîte de Sker. Et alors, le chauffeur est venu ici prendre un chargement. Et c'était le 18 mai 1943. Et vers les 7h moins le quart là, du soir, là, il arrive à l'usine. Là, il était seul là-bas. Et bon, il rentre en marche arrière dans le magasin à chiffon. Et ce qui se passait avec ces. Parce qu'à l'époque, il avait fallu équiper tous ces camions là, avec des gazogènes, parce qu'il n'y avait pas d'essence pour rouler. Donc, quand on arrêtait ces gazogènes, là, il y avait un retour de flamme qui se produisait. Et c'est ce qui a eu lieu. C'est bien que, comme je le dis, là, comme ça n'était pas pressé, là, ça a cramé en moins de deux. Un quart d'heure après, il n'y avait plus de magasin, il n'y avait plus rien. Et il y avait un auvent là, le long du magasin chiffon, là, à Kaskadec, où il y avait une quarantaine peut-être de cordes de bois empilées encore, parce qu'en plus de ça, ils utilisaient du bois pour chauffer également, et puis pour il y avait de la tourbe, comme les Bolloré, ils possédaient des terrains là, où on pouvait extraire de la tourbe en bordure de la route de Saint-Urien. Et donc, en moins d'un quart d'heure, il n'y avait plus rien. Alors, le pompier, moi, c'était mon beau-père qui est arrivé avec le père Cloutot, qui était donc marié avec Jacqueline Bolloré. Là. Ils sont arrivés à Kaskadec, là-bas. Et au bout d'un moment, la pompe à incendie, bon, elle a rendu l'âme. Et puis, celle de Kaskadec avait fait pareil. Donc, ça avait duré toute la nuit. Je n'avais jamais vu d'incendie, mais là, pour la première fois, là, on avait été servi. Alors, ces chiffons-là, après, on a essayé de les récupérer. On avait embauché des gens pour les envoyer sur des prairies, là, en bordure de l'Isole, là, pour sécher et récupérer ce qu'on pouvait faire Donc, à Kaskadec, il y avait pas mal de gens qui avaient été embauchés. Et alors, quand le débarquement a eu lieu, là, on nous a donc demandé de prendre nos congés. Et une fois que les congés étaient passés, on nous a dit, là, ben, on ne peut pas vous reprendre maintenant, si bien qu'on était mis en chômage. Bon, entre-temps, j'avais une convocation, moi, pour passer un conseil de révision, c'était ça exactement, à la mairie de Quimper pour le STO. T'avais
20 ans.
Donc, c'était à fin octobre là, que j'ai passé ce conseil-là. Et évidemment, il n'y avait jamais eu autant de malades parmi les jeunes. Les Allemands, ils devaient se demander qu'est-ce que c'était que la jeunesse française. Là. Et donc, voilà. Et ma mère avait une cousine germaine là, qui tenait une ferme à Landudal. Si bien que pendant plusieurs mois, là, j'ai donc été à Landudal là, au service, enfin au travail agricole, quoi, battage. Alors à ce moment-là, il y avait encore du blé noir aussi. Là, c'était comme ça à l'époque, et donc enfin, le travail de la ferme, quoi. Et puis voilà que mois de février, ben, De Gaulle décide d'appeler la classe 43 au service militaire, alors que c'est la classe 45 qui aurait dû être appelée. Donc c'est ma classe. Et conseil de révision encore à Saint-Brieuc. Alors, comme on m'avait mis dans l'aviation et il n'y avait pas d'habillement pour nous, on nous a ramenés à la maison. Donc je suis rentré chez moi là, au bout de 3 jours. Et j'ai été rappelé qu'un mois après au centre d'instruction de la Medler Vitré. Là, on avait pris les plis sur les Allemands, là. Il y avait des courses le matin là, dans la campagne. Et puis, ils avaient rappelé des anciens sous-offres pour nous faire un peu d'instruction militaire. Et donc, on défilait à longueur de journée là, sur la cour à Vitré. Et un beau jour, on cherchait des volontaires, là, 250 du Valais. On ne savait même pas pour où ni pourquoi. Et on nous avait demandé de descendre en grande tenue le matin à l'appel. Et le commandant a passé et il a désigné d'office les gens, aussi bien que moi j'étais dans le coup là aussi, mais j'aurais pu rester ici et permuter avec quelqu'un d'autre qui n'avait pas été désigné parce qu'il y en a qui voulaient partir avec leurs copains. Et puis, donc, dans la nuit du 30 avril 45, oui, je suis parti. La guerre n'était pas finie. Hein. Je suis parti donc vers 1h du matin de Vitré. Là, on arrive à la gare Montparnasse. Et puis sac au dos à pied jusqu'à la gare de Lyon. Et il faisait un froid de canard. Et la seule chose que le lieutenant qui commençait notre détachement avait réussi à avoir, c'était un bouillon cube là, vers 17h de l'après-midi. Et le lendemain, on avait su qu'ici, en Bretagne, il avait neigé le 1er mai. Et donc, on est parti de. On a quitté la gare de Lyon là, le soir, vers, je crois, 18h peut-être. Et c'était pas le TGV à l'époque, puisque la plupart des ponts avaient été rafistolés pour pouvoir faire circuler les trains, donc c'était très ralenti que ça marchait. Alors, dans les gares, là, il y avait un tas de gens qui attendaient leurs prisonniers, puisque en Allemagne, les Alliés fonçaient et délivraient au fur et à mesure les comptes prisonniers. Donc les gens, ils attendaient toute la nuit, là, alors avec des boissons chaudes là, qu'on leur servait. Et nous, je me suis trouvé donc en gare de Lyon le dimanche. Et c'était la première fois que les élections municipales avaient lieu en France où les femmes pouvaient voter. Mais les militaires, non, si bien qu'on était consignés dans le train toute la journée à Lyon. Là. Et on est arrivé à Marseille que le lundi matin. Et on nous a envoyés dans une caserne en bordure de la mer, près du Vieux-Port, la caserne Odéhout. Et donc, c'était une base de transit, là, avec des matelas par terre, là, où un tas de gens passaient de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et voilà que, enfin, on venait nous chercher là pour faire des... rendre service. Par exemple, il y avait eu le coup de sétif en Algérie, si bien qu'il y avait des femmes de militaires là, qui voulaient rentrer en France. On allait donc au bateau les aider à porter leur bagage et puis à les conduire jusqu'au train à la gare Saint-Charles. Là. Et c'était toujours des corvées comme ça, à droite, à gauche. Et un beau jour, on s'est aperçu au rapport là, que on n'était pas tout seul. On était couvert de poux. Et on nous a envoyé à Marignane, à l'épouillage, soi-disant. Mais mes poux m'ont suivi en Afrique du Nord. Parce que c'était en Afrique du Nord qu'on devait aller. Et donc, avec nos tenues d'hiver. Et quand on est arrivé là-bas, à Alger, là, il y avait quatre camions qui nous attendaient, puisque le contingent avait été scindé en deux, on n'était plus que 120. Donc, il y avait 40, il y avait quatre camions, donc 30 par camion. Et on nous a envoyés à 40 km de là à Blida. Alors, à Blida, là, bon, bah, on nous a donné des tenues d'été, là-bas, et on était deux ou trois jours à Blida, là, et un dimanche soir, là, on quittait sous l'orage Blida pour une destination qu'on ne savait même pas où. Et comme il n'y avait qu'une ligne de chemin de fer, là, quand on arrivait dans une gare, là, la loco, on s'en servait pour faire toutes les manœuvres possibles et imaginables. À l'époque, c'est bien qu'on avait le temps. Là. Alors, les premiers qui avaient réussi à Oran, on a laissé remplir leur bidon de vin. Là. Quand le lieutenant a vu ça, il s'est dit ouais, je ne vais pas pouvoir tenir mes gars là, après ça. Parce que le pinard là-bas, à Oran, là, c'était pas du 12 degrés comme ici, là. C'était facilement du 14. Hein. Et
pendant ce temps, ici, l'usine n'était pas réouverte encore.
Ici, non. Non, non, non.
Qui a fallu attendre.
Alors donc. J'arrive à Fès, c'était une école de transmission de la Medler, avec des belles formules au tableau, engagez-vous, on était plusieurs là. Il dit, nous sommes de la classe 43, nous sommes des appelés, on n'est pas désengagés, on ne vient pas pour s'engager ici. C'est bien qu'on nous avait mis un peu à droite, à gauche, en suivant nos... capacité, quoi. Moi, j'étais bureau élémentaire, là, qui m'occupais des pièces matricules et des trucs comme ça. Et puis, on ne savait même pas pour combien de temps on était parti. Un beau jour, alors, le décret est apparu, là. Et donc, je suis allé à Casablanca, là, pour me faire démobiliser. Et puis, on est revenu. Là, près d'Alger, là, il y avait des gars là, qui allaient partir par avion. Et au bout d'un moment, on les voit qui reviennent dans la nuit. Les avions n'avaient pas pu passer les Baléares, mais avec le temps, ils avaient récupéré à l'époque là, tous les Junkers 52 allemands. Là. C'était avec ces avions là, qui faisaient la navette et le temps était tellement mauvais que ils n'avaient pas pu passer. Et donc, moi, je suis revenu. J'étais au service d'aviation, soi-disant, mais je n'ai jamais mis les pieds dans un avion. Et donc, je suis revenu en bateau et arrivé à Marseille. Là, on a fait l'appel à tous les gars qui étaient là. On avait juste assez de fric pour payer le voyage jusqu'à Paris. Et à Paris, il a fallu que j'aille chez un oncle à moi, là, faire appel au peuple. Et puis, je suis revenu, donc, distribuer un peu de fric à mes copains, là, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Là. Bon, ben, à l'époque, là, on pouvait faire confiance aux gens. Là. Ils m'avaient ramené des mandats après pour me rembourser. Et c'est comme ça. Et donc, je suis rentré, je suis resté avec un copain là-bas, chez mon oncle. Là. Et on est rentré 8 jours après, là, et en arrivant à Rennes, puisqu'il fallait aller à Rennes-Saint-Jacques se faire démobiliser, j'ai trouvé un collègue là, qui était du même âge que moi, et qui, donc c'est lui qui était au téléphone là, à l'époque, là, c'était Louis Ranou, et lui, il avait été opéré de l'appendicite, c'est pour ça qu'il avait du retard. Il avait fait son service, lui, à Rennes-Saint-Jacques. Et donc, on s'est fait démobiliser, là, puis je suis rentré à la maison. Alors là, quand ça avait fait durer juste un an, alors je suis venu voir le père Garin, ici, à l'usine, évidemment, ça ne tournait pas encore. Alors, il m'a dit, va voir avec le directeur de Cascadec, qui était M. Patin. Alors je suis allé le voir et il m'a dit, il n'y a pas de problème, il dit, tu viens quand tu veux. Alors, donc j'ai dû démarrer là-bas d'Arthur le 1er avril 1946.
Toujours à la compta?
Oui, à ma place, à la comptabilité. À l'atelier des cahiers, là. Et puis, en 47, alors, l'usine a redémarré ici. Et là, je suis revenu. J'ai revenu ici et on m'a mis de retour dans un bureau, là, à la comptabilité. Et pour les cahiers OCB, là, il n'avait qu'un seul compte, si bien que tous les clients étaient dans le même compte. Alors on m'avait demandé de faire le nécessaire pour ouvrir un compte à chaque client.
Un français,
oui. Oui, parce que non, c'était en France plutôt. Hein. Et on n'avait jamais vendu autant de cahiers. On aurait même vendu davantage si on avait pu expédier, parce que on était dans l'obligation de faire signer les visées, les lettres de voiture de transport par la Feldkommandantur. Alors quand ce monsieur là, avait décidé, il nous laissait un peu de place dans les wagons hein, pour expédier.
En 1947, il
n'y
avait plus de commandes
d'auteur. Hein? En 1947, oui, mais avant, c'était pendant la guerre. Hein. Oui. Et donc, en 47, là, donc, quand je suis revenu ici, alors, et c'était assez facile, parce que la plupart des gens, à l'époque, utilisaient le chèque postal. Et le chèque postal, il y avait donc un talon qui restait, une souche qui, dans le carnet, et deux parties qui allaient au CCP, et un, deux revenaient à l'intéressé. Et au dos, on pouvait savoir quelle facture, puisqu'ils mettaient en général en règlement de telle et telle facture. Si bien que c'est comme ça qu'on avait réussi à épurer les comptes et ouvrir un compte à chaque client.
Dans des grands registres?
Alors, on était là, quatre dans un petit bureau, là, et puis il y avait le service technique. Eux, ils n'étaient qu'à deux, ils avaient un immense bureau, et en plus de ça, il y avait encore une salle de dessin à côté. Si bien que ces services techniques, là, Malo ou Léonus, on les a envoyés derrière la chapelle, dans un bureau là, qu'on avait préparé pour eux, et nous, on nous avait envoyés au fond. Leur place, quoi, au fond. Là, où... Et là, on avait demander à ce que les bureaux qu'on fasse aient une légère inclinaison parce qu'on avait des sacrés bouquins, là, des grands livres. Là. Et donc, c'était facile, on savait ce qu'on voulait, donc on avait eu satisfaction. On avait fait ces bureaux, là, on était donc à quatre là-dedans, et alors il y avait de la place. Alors, moi, j'avais les clients.
Des cahiers ?
Non. Les clients, tout. Alors, les factures étaient faites à Paris. Et la plupart des factures, puisque on travaillait avec beaucoup avec la British American Tobacco, ça c'était encore les factures faites en livres. Alors il fallait que je transforme ces livres-là en francs encore, puisque ici en comptabilité, c'était en francs qu'on jouait. Et alors c'est moi qui faisais le chiffre d'affaires également, client chiffre d'affaires et tout.
Par contre, il n'y avait pas d'exportation vers les États-Unis, c'était...
Ah, c'était le papier à cigarettes, si, au contraire, c'est là que ça commençait, quoi, oui. Mais eux, les dollars, c'était pas pareil, hein. Enfin, il fallait, avec le cours, transformer également comme ça. Alors, il y avait de la... Enfin, ils avaient voulu embaucher quelqu'un d'autre, là. Donc, il s'était adressé au crédit, c'était, à l'époque, c'était encore Crédit Nantais. Et donc, c'était un nommé Brion qu'ils avaient désigné, ce type-là, pour venir travailler ici. Et lui, il s'occupait uniquement des fournisseurs. Bon, après, il y avait le fils Castric, alors, qui, lui... avait la caisse, et puis tous les banques et tous les trucs à côté, quoi. Alors, un beau jour, en 51, là, on voit débarquer deux personnes
de Paris.
On ne savait pas qui ils étaient, ni quoi. Et ils se mettent à mesurer la hauteur des bouquins, là, pour... Voilà combien de clients ou de feuillets il y avait dedans, c'est, au lieu de les compter. Et on a su après que c'était des gars qui venaient de la Ségos et que la direction qui venait d'embaucher un polytechnicien là, qui s'appelait Georges Martin, qui était nommé donc directeur technique de la boîte, voulait transférer la comptabilité à Paris. Si bien que là, à un moment donné, moi, j'étais aussi désigné pour partir à Paris.
Tu étais volontaire.
Hein ?
Tu étais volontaire.
Il n'y avait pas d'autre solution, sinon, on savait ce qui nous arrivait. Donc, quand ils se sont rendus compte quand même que moi, j'avais mes enfants, ils étaient tout jeunes. Le dernier, il n'avait que 2 ans, l'autre, il n'avait 3. Il y a 18 mots entre eux, mais un an, quoi. Et donc, ça aurait coûté cher. Il y avait Bouenec également, qui était là au prix de revient, avec Padiolo, qui était le gendre de Castric, le neveu du père Garin par alliance. Et en définitive, il n'y a eu que lui, là, donc Padiolo, qui est parti à Paris, et qui est devenu le chef comptable à Paris. Et le fils Castric, puisqu'il était célibataire, il est parti à Paris, il a été plusieurs années, enfin 8 ans peut-être, je crois que c'est en 1960 qu'il est revenu.
En définitive,
il n'y a que ces deux-là qui ont suivi. Moi, j'ai pris la place du fils Castric. Donc, j'avais la caisse à ma charge, là, et puis les banques. Alors, toutes les semaines, je devais fournir un état à Paris pour l'état financier, pour les situations financières, en somme, qu'on leur donnait, pour savoir où ils allaient, parce qu'ils... Il y avait la paye à l'époque, là, pendant longtemps, c'était le 8. Et puis après, ça avait été scindé en deux. Il y avait une quinzaine, le 15, 16 du mois, et le reste après. Et c'était toujours le 8, le jour sacré pour la paye. Quoi.
La paye en liquide.
Oui, c'était encore en liquide, mais là, quand ça a été scindé en deux, là, on avait demandé, donc, je ne me rappelle plus, dans les années 60 que ça devait être, à chacun d'ouvrir un compte bancaire. Donc, c'était viré sur compte, parce que ça commençait à devenir dangereux, parce que, en somme, c'était les banquiers. Qui venaient, ils étaient souvent à deux, ils venaient livrer les billets ici et les espèces là. Et ils avaient souvent aussi pour Kaskadec, là, c'est que ça en faisait de l'argent. Donc moi, c'était des prévisions qu'on fournissait aux services financiers à Paris. Donc au vu de ce qu'on leur envoyait là, ils nous faisaient les virements à la banque. Qui Crédit Nantais à l'époque et qui plus tard avait fusionné avec le Crédit de l'Ouest pour devenir Crédit Industriel de l'Ouest. Et donc après c'est un neveu au père Castric qui est venu de la banque également, un nommé Cariou qui était de Combride. Hein. Et donc, c'est lui qui a pris ma place, là, et moi, j'avais passé au compte papier. Et j'étais là pendant longtemps, et puis, à un moment donné...
Donc, tu as lâché les comptes de la banque et de caisse ?
Ah oui, oui, totalement, oui, je ne m'occupais plus, c'était Cariou qui avait pris le relais, là.
Les comptes papier, c'est ?
Hein ?
Et tu prenais les comptes papier ?
Les comptes papier, oui.
C'est quoi ?
Ben, tous les matins, je passais faire les relevés dans les machines. Tout ce qui, parce que il y avait, ils remplissaient une feuille quoi. Chaque faction, il y avait trois possibles. Enfin, chaque faction avait donc la possibilité de mettre sur ce qu'ils avaient fait eux. Donc moi je passais relever tout ça, je passais également à la centrale, relever les kilowatts utilisés, et puis tout ça après c'était réparti en fonction des fabrications sur chaque série de papier. Quoi.
C'était de la comptabilité analytique.
Oui, et donc... je ne sais pas combien de temps que j'ai été là, et puis on m'avait donné la paye des maîtrises à faire. Et après, c'est la paye des cas également, et même le financier qui est venu, qui a remplacé Pagliolo, quand Pagliolo a pris sa retraite là. C'était les Rothschild là, qui avaient mis. C'était un nommé Lernoul. Et il voulait même que je fasse. Puisque tous les grands dirigeants, les directeurs d'usine, étaient payés par Paris. Et donc il avait été sur le point, là, je ne sais pas, de me coller tout ça. Quoi. Et en définitive, non. Bon, il arrive après que mon beau-frère, qui faisait pour les codes de Kaskadec, ait pris sa retraite. Et donc, tout ça, ça m'était échoué. Et puis, il avait également son sous-fif, là, qui faisait la paye des maîtrises. Tout ça m'était arrivé. Donc, je faisais les deux usines.
Ils étaient bien payés ?
Bah, ça dépendait, oui, c'était sûrement pas mal, oui. De ce côté-là, je crois pas qu'il y ait beaucoup à se plaindre. Hein.
Ça payait bien chez Bolloré.
Et donc, un beau jour, c'était après coup, quoi. J'arrive ici, c'est quand j'étais parti au circuit de Lonne, à Châteaulin, c'était au mois de septembre, là. Et le directeur des ressources humaines, là, qui était chevalier, donc, était parti à Paris. Il avait été convoqué par Michel Yves, là, une réunion là-bas. Et donc, j'avais su que mon compte m'était réglé, là, et qu'on allait me liquider.
Donc, c'est la direction du personnel qui a décidé de supprimer le poste.
Oui, oui, oui. Donc, on me supprimait mon poste, là. Et alors, c'était Jeannine qui était chargée de me remplacer. Alors, ça, je lui avais passé tous les trucs, les consignes et tout, les clés de l'armoire. J'avais une armoire métallique, là, dans le bureau du Pierre Bolloré. Et quelques temps après, là, je ne sais pas, un 15 août, là, vous ne savez pas trop que faire. Là. Le pays ici, il n'y avait pas un chat, il était très calme. Et ma femme et moi, on descend. Là. Et puis la grille était grande ouverte. Je me suis dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe. Les bureaux, c'était ouvert.
Un dimanche.
Un 15 août. Je ne sais pas quel jour il tombait, mais enfin, bref, c'était férié. Quoi. Donc, je rentre dans le bureau. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois? Tous les pays des types, puisque c'était dans des classeurs, tout ça est allé par terre. Je me dis, mais c'est pas possible, un truc pareil. L'armoire avait disparu. Et ils avaient ici ouvert le magasin là, pour. Ces types, là, je ne me rappelle plus, ils fabriquaient. Alors, je ne me rappelle plus où est-ce. C'était des sacs ou des trucs comme ça qui fabriquaient. Là. Ils avaient loué donc le magasin, là, ces types-là. Et ceux-là, ils avaient jeté leur dévolu sur cette armoire-là. Alors, le lendemain matin, tout de suite, je décroche mon téléphone et j'appelle Jeannine. Je pense que, je ne sais pas où ils ont classé tout ça après, là, mais. Chercher. Tout était par terre, donc les gens pouvaient se rincer l'œil, là. C'est inimaginable.
Et donc, tu es resté quand même en poste?
Ben, là, donc, je suis resté, ils m'avaient annoncé ça en septembre 80, et j'étais là jusqu'au 31 mai 81. Alors, avec les congés que j'avais le droit, les 3 mois de préavis, j'arrivais donc au 31 octobre 81. Et donc, et après, alors, j'ai été pris en compte par la CEDIC là, pendant jusqu'à 65 ans. Et j'avais que 58 quand j'ai quitté. Donc pendant 7 ans, et là, la CEDIC, à l'époque, évidemment, les premiers qui sont partis, là, quand en 77, il y a eu la grande lessive, là, ça avait été, évidemment, comme partout, hein, c'est pas possible, quoi, qu'on nous foute. Et quand ils ont touché leur pays, là, ils étaient tous heureux, parce que dans les pays qui touchaient, là, il n'y avait absolument aucune déduction à l'époque. C'était net. Et en plus de ça, on intégrait les primes qu'ils avaient, plus le 13e mois, c'est bien qu'ils touchaient plus à la maison que lorsqu'ils travaillaient. C'est bien qu'ils étaient heureux.
Donc ça, c'est en 77 et en 81 aussi, non?
Ah oui, oui, oui. Avant, c'est en 77 que ça a commencé. Donc là, il n'y avait absolument aucune déduction de fait sur les.
Pas de charge.
Ah non, non, pas du tout.
Et donc, toi, tu es parti en 81, alors que la direction changeait.
Oui, exactement. Vincent, c'est lui qui m'a remis ma médaille d'or, là, parce qu'à l'époque...
D'or, 35 ans
J'avais 40 ans, et à ce moment-là, la médaille d'or, c'était 40 encore. Hein. Tandis que maintenant, ils ont descendu les paliers. La première, maintenant, c'est 20 ans. Et là, c'était 25, 35 et 45. Alors, donc.
Quand Vincent t'a remis ta médaille, à la fin d'année.
Hein?
À la fin de l'année 81.
Qu'on m'avait remis, ouais. Non, je pense que c'était. Je ne sais pas, c'est plutôt au milieu de l'année. Oh, peut-être, si, oui, 81, et j'ai quitté. Oui, c'était au mois de juillet, peut-être, juillet ou août, là, 81, oui. Alors là, c'était Vincent, c'est lui qui m'a décoré, quoi. Et Chevalier était toujours, à l'époque, le DRH. Et comme je te disais, c'est quand il est resté malade, là, il avait soi-disant un cancer, que il y en a qui étaient impatients, donc il a eu son sac lui aussi, et puis c'est là que c'était Esperne, en somme, qui le remplaçait. Et comme Esperne.
Il était directeur.
Oui, c'est vis-à-vis de Chevalier. Il fallait bien, parce que s'ils avaient embauché quelqu'un d'autre, ben je sais bien que Chevalier aurait rué dans les brancards. Il aurait dit non, vous mettez à la porte et puis vous prenez un autre. Donc ils ont pris quelqu'un qui était déjà sur place. Quoi.
Donc si on résume, là, 81, c'était Vincent qui arrivait.
Oui.
Mais depuis le début, t'as eu qui chez les Bolloré? Et qui en chef d'établissement?
Alors, à l'origine, c'était René Guillaume, qui était, puisque, le père est mort en 1935, donc lui, il venait de se marier il y avait 3 ans, il est marié en 1932, là, et c'est lui qui a pris, et alors, sa mère, évidemment, l'avait son frère, là, Gaston Dubé, là, qu'elle avait placé comme un administrateur aussi. Et à l'époque, après, il y avait 36, le Front Populaire, il y avait les syndicats et tout. Avant, il n'y avait pas ça. Si bien que pour discuter avec tous ces types-là, ils avaient pris un avocat, là. C'était un nommé Tony Cata, qui était dans la boîte aussi, et c'est lui qui s'occupait donc
question
salaire, tous les trucs sociaux, quoi. C'est lui qui avait ça, 14.
Okay. Donc, il y a René Guillaume, mais qui était le directeur d'usine?
Alors, c'était le père Garin, il était directeur pratiquement, presque jusqu'à sa mort. Il est mort en février 1957. Uh-huh. Et je ne sais pas trop. Il n'a pas été. Oui, il est mort pratiquement à son bureau. Hein. Ah oui, il a tenu là. Et donc, après ça, c'est son beau-frère, la Castrique, qui a pris le relais. Et après Castrique, père, c'est Castrique fils. Et je ne sais pas.
Et pendant cette période, c'était qui côté Bolloré?
Il y avait René Guillaume, il est revenu là après l'Angleterre là, et donc 45. Et je pense que c'est Gwen qui était. Enfin, c'est plutôt Michel, quoi, qui était. Gunn était. Ils avaient un nom, directeur, je ne sais pas, technique, peut-être, ils se donnaient des noms comme ça, quoi. Et à un moment donné, là, même, il y a eu une sacrée fâcherie entre eux, entre Michel et Gunn et René Guillaume, contre Michel. Parce que quand ça allait mal, il y a un qui était pour les Schneider, l'autre était pour, je ne me rappelle plus quelle était la grosse boîte, là.
Avant Rothschild, oui.
Oui, Rothschild est venu, lui, avec le. Comment c'était. Comment on appelait ça à l'époque, là. L'usine de plastique, là-bas, quoi. Et donc. C'était comme il y avait 50-50, c'était les fournisseurs, la chaîne. C'est eux qui fournissaient tout. Puis à un moment donné, ils avaient laissé tomber, quoi. Et après, alors, ben oui, c'est les Rothschild qu'ils ont eu. Alors, quand ils ont envoyé leur type, là, il a vu tout de suite tous ces fermes, les bâtiments Kerana et compagnie, et les maisons à droite, à gauche, là, il s'est mis à vendre tout ça, quoi. Donc à Kerana, là, ceux qui ont voulu à l'époque ont acheté leur appartement, et puis bon, ça a été vendu. Une des ailes, l'aile est, là, qui a été vendue à l'OPAC à l'an dernier, là, c'est eux qui ont retapé après la totalité avec la mairie. Après, bon, ben, ils logent là-dedans des jeunes, là, ils font passer en général.
Et après, il y a eu Vernet, c'était un des derniers directeurs, ou il
n'était
pas directeur?
Ben oui, si, c'était lui, c'est Henri Vernet, oui, c'est ça, oui.
Du temps des Rothschild.
Oui, Rothschild, oui. C'est lui qui a fait vendre tout le... Oui.
Et après, Vincent Boulogne.
Oui. Enfin, Michel Yves, avant.
Michel
Yves. Michel Yves, c'était lui, là. Je ne sais pas en quelle année il est venu. Mais là, entre les deux frères, c'est le jour et la nuit. Hein. Ça, c'est sûr.
Bon. On a fait long, là. Là, on a fait long. T'as un grand bavard. Hein.
Ben, je ne sais pas si vous avez des questions. Hein.
À quelle heure
C'est 15h30,
peut-être. 14h35.
J'avais dit 15h.
Ouais. On dit ce qu'il fallait pour faire des cahiers pour leur armée, là, et c'était ces cahiers-là, il y avait des pyramides dessus, c'était... Le nom qu'ils avaient donné à ce cahier à Sihad, là, c'était Gizeh. Le nom d'une pyramide, je crois, en Égypte.
Mais ça représente... il y avait le dessin de la pyramide?
Oui, oui, sur la couverture, quoi.
La couverture, d'accord.
Et ici, les cahiers, là, au CB, là, il y avait 8 numéros. C'était... il y avait le 1, le 2, jusqu'à 8, quoi. Alors le 8, c'était soi-disant un goût américain. Et ce cahier-là ne faisait que la moitié de ce que font les autres. Il y avait juste 60 feuilles dedans.
Parce que c'était plus épais,
ou c'était plus épais. Voilà, c'est plus épais. Parce que tous les autres papiers, on peut dire que c'était du papier non combustible. C'est-à-dire qu'il fallait sortir le briquet plusieurs fois pour allumer sa cigarette. Tandis que...
Le numéro 8
Le numéro 8, une fois que tu l'avais allumé... Tu pouvais le laisser, ça se consumait tout seul. Et donc, il n'y a pas de problème. Hein. Alors,
mais l'OCD, il est sorti juste après-guerre.
Pendant la guerre, ça a démarré. Et l'année 1950, je crois que c'était le summum. Je me rappelle de voir 10 voitures, des 4 chevaux, alignées là, le long des bureaux, là. Avec un camion. Et on avait réparti la France en 10 secteurs. Et chaque responsable de secteur avait une voiture. Et ils étaient tous venus avec leur voiture ici, là. Et il y avait un camion également. Et un des mécanos de Cascadec, là, ben, c'est pas un de ceux que le père Bolloré avait fait venir, mais c'était un de Sker, là, qui faisait le tour de France avec ce camion-là, avec une enchevêtreuse, là, pour faire voir comment on pliait le papier, là, pour faire les blocs, pour, ben, tu sais, puisque le cahier numéro 4, là, tu sais, Le truc était plié à l'intérieur, c'était pas un truc à plat, quoi, comme les autres feuilles. Alors, de ce cahier comme ça, il y avait le 4, et puis il y avait le 6. Mais le 6, c'était une couverture noire avec du papier maïs à l'intérieur. Alors le 1, là, c'était une couverture souple, avec du papier, un papier repsé, qu'ils appelaient ça, là. Et donc une couverture souple, et non gommée. Alors, pour les cahiers gommés, il y avait deux bandes transversales dessus, pour indiquer sur la couverture que ça, c'était du gommé. Alors le 2, c'était une couverture rigide, cartonnée, avec une soutache élastique, pour tenir le cahier fermé. Et ce cahier-là était très, très prisé des marins, parce qu'il était solide, comme étant cartonné, et qu'il n'était pas gommé. Parce que, si avec de l'eau dessus, tout de suite, là, ben, toute la gomme se serait collée, et il n'y a plus de possibilité de détacher les feuilles. Alors le 3, c'était une couverture souple, non cartonnée également, mais noire, avec du papier maïs à l'intérieur. Le 4, alors, c'était le plus courant, avec un phare qu'on voyait par transparence sur la feuille de papier. C'est pour ça qu'on l'appelait Bolloré phare.
Et donc, les voitures publicitaires, avec si vous les aimez bien rouler, là, ils sont partis d'ici.
Ben oui, elles étaient rassemblées toutes là, devant les bureaux. Et ça, c'était en 1950.
Le Tour de France
à 50. Oui. Et là, la radio, là, il commençait avec écoute, écoute, là. Il y avait un slogan comme ça, là. Et donc, c'était la grande époque. Et puis, presque aussi, parce qu'ils avaient encore, quand j'ai quitté Cascadec, là, en 47, là, ils avaient augmenté les enchevêtreuses, là. Et puis, tout d'un coup, paf. Tout pas rangé. Ça avait été fermé. Alors qu'on avait fait un nouvel atelier, là, immense, bon, Cascadec, et puis voilà.
Et rangé
Je sais pas. Ben, c'est Bronstein, quoi. C'était.
Pour
Bronstein.
Ah, pour le.
D'accord. Ouais.
Okay. Et toi qui as connu Odette et Cascadec, c'est quoi la différence entre les deux? De mentalité, de...
Ben, évidemment, Cascadec, là, ils avaient un leader, là, qui a été député. Et ce type, là, il avait traîné ses savates à Paris, là, donc c'est là-bas qu'on avait, il avait la tête, là, sans doute, et c'était Salin, Pierre Salin, c'était le leader. Alors, évidemment, ils étaient tous derrière lui, là, comme un seul homme, quoi. Et ils venaient ici manifester, parce que jusqu'en 36, là, c'était calme, il n'y avait pas de problème, mais quand les syndicats, là, sont arrivés, quoi. Alors là, ça a été un peu la...
Ouais, il y a eu l'épisode de Henri Gégou, quoi. En 24, il y a eu quand même un petit conflit social.
En
24,
non.
Il y a eu une grève qui a avorté, mais il y a eu une petite grève en 24.
Je sais qu'il y a des gens là, qui étaient là, peut-être ils ont été foutus à la porte, mais ça, moi j'étais jeune à l'époque, je n'ai pas su trop bien, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis ici et qui sont allés sur Paris. Hein. Ils ont peut-être cherché à... Fou de le cirque, là, et... Ils étaient peut-être un peu plus évolués que d'autres.
Mais c'est vrai qu'à Odette, c'était pas... Il y avait beaucoup moins de contestations ou de revendications.
Oui, 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 ils étaient sûrement moins durs qu'ils n'étaient... À Cascadec, là, pour un oui, pour un non, là-bas. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur a coûté Les usines ici, à Penkarn, ils n'ont pas voulu faire ça à Kasker là-bas, si bien que maintenant, là-bas, Bolloré n'a plus rien, quoi, ce qu'il a vendu aux Américains.
Là. Aux Allemands d'abord, aux Américains ensuite.
Ouais.
Bon, Matré.